Et on va vous parler d'oiseaux aujourd'hui dans la Terre au Carré avec une philosophe qui a réalisé une enquête dans le domaine de l'ornithologie pour comprendre la notion de territoire et les comportements spécifiques chez les oiseaux. Car le sujet est passionnant lorsqu'on se penche sur l'organisation de ces animaux et sur la science qui s'intéresse à eux. Vinciane Després publie « Habiter en oiseaux » chez Actes Sud. Elle est mon invitée dans un instant avec son travail qui commence avec la rencontre avec un merle. Si vous aussi vous avez des histoires d'oiseaux à nous raconter et des questions à poser à Vinciane Després sur le territoire des oiseaux, j'attends vos appels dès maintenant au 01 45 24 7000 et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passe au vert dans quelques minutes.
Comment Chirac a tué Lubrizol dans les médias nationaux? Les coulisses ici à France Inter, je vous explique dans un instant.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Jean-Yves Souben, le vice-président du collectif pour le triangle de Gonesse, qui est en route vers Matignon pour dénoncer le projet Europa City qui menace les terres agricoles de la plaine de France. Comme tous les vendredis, votre chronique détox. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour.
Vous intéressez la compagnie Air France aujourd'hui?
Oui, qui veut compenser 100% des émissions carbone de ses vols intérieurs d'ici janvier 2020. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est suffisant? On va en parler.
Et puis notre invité découverte est le photographe Éric Tourneret avec une exposition sur les abeilles qui est à voir en ce moment au Muséum National d'Histoire Naturelle du Havre. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Maxime Ingrand et Charles Leca.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Bonjour Vinciane Després.
Bonjour Mathieu.
Un petit chant de merle pour vous accueillir, le merle noir. Vous qui êtes philosophe et qui enseignez à l'université de Liège et qui publiez donc « Habiter en oiseaux » chez Actes Sud dans la collection « Monde sauvage ». Car tout commence avec un merle dans votre histoire et dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'est un merle que j'avais entendu il y a 3-4 ans d'ici et je n'avais jamais vraiment fait attention. Mais allez, un matin, vers 4-5 heures du matin, on est vers la fin février, un merle, la fenêtre est ouverte et j'entends un merle et je me rends compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Je n'avais jamais entendu ça. Et puis je me l'ai écouté et puis je n'arrive plus à me rendormir. Et puis cette insomnie a été prolongée pendant des jours et des jours. Parce que c'était un chant, enfin on l'entend, qui était extraordinairement beau, mais en même temps extraordinairement inventif. Il y a les premières notes, et puis il y a un changement de séquence sur les dernières notes, et puis il y en a un autre qui lui répondait. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait un silence total qui s'était fait autour de ce chant de merle. Et j'ai pensé ce jour-là, c'est marrant, si quelqu'un a inventé l'importance, c'est le merle. Le merle a inventé l'importance, il y a quelque chose qui importe à cet oiseau, et il n'y a rien d'autre qui importe au monde. Et je me suis sentie traversée par cette importance, et je me suis dit à partir de ce moment-là, il faudra que je fasse quelque chose de ça. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. J'ai un peu écrit dessus, et puis j'ai attendu. Et puis un jour, j'ai su ce que j'allais en faire, j'allais essayer de comprendre, tiens, mais une des hypothèses possibles, pourquoi ce merle chante? Pourquoi ce merle chante en haut d'une cheminée si fort, de façon si visible, au début du printemps ou à la fin de l'hiver? En fait, il est en train, je ne le savais pas, mais il est en train de créer un territoire.
Et c'est le début donc de votre étude, de votre enquête finalement, oui, sur le sujet. Vous avez même commencé, paraît-il, par laisser les fenêtres ouvertes la nuit, c'est,
oui,
ça, pour l'entendre?
Oui, l'insomnie finalement était... Voilà, c'est des insomnies qu'on ne souhaite normalement pas. 4-5 heures du matin, on préférerait, oui, une heure ou deux de plus. Et là, ce n'était pas possible, quoi. J'en avais besoin.
Voilà, oui. Mais c'est un chant finalement, vous écrivez également, qui est proche de la parole, c'est-à-dire qui vous raconte une histoire, quoi.
C'est le sentiment que moi j'avais. D'ailleurs, chaque fois que j'entendais une séquence, je me disais, et puis? Et encore, comme si j'avais à faire un excellent roman ou un feuilleton. Parce que justement, comme il y a une petite variation à la fin, je me disais, qu'est-ce qu'il va inventer cette fois-ci? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre dans les notes? Ouais. C'était extraordinaire. Et je sais pas, c'est une physiologie purement inventive. Ça n'a rien à voir avec probablement la réalité. Mais j'ai eu le sentiment, quand j'entendais ce merle, que le tympan est composé de divers lieux. Purement inventif, c'est fictif, et qu'il y a un lieu où arriverait la parole et un lieu où arriverait la musique. Et j'ai l'impression que cette musique arrivait au lieu du tympan où je reçois d'habitude les mots. Tellement ça ressemblait à de la parole, mais de la parole en beau. Et ça, c'est extraordinaire. Une parole qui serait en même temps magnifique dans sa tonalité.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, en tant que philosophe, finalement, de vous aventurer sur ce terrain de la territorialité, donc des oiseaux en particulier, parce que vous avez choisi un sujet très particulier quand même,
hein? Oui, donc j'aurais pu penser qu'il était très étroit. Ouais. Je ne m'étais pas du tout intéressée à ça. Je n'avais rien lu sur cette question auparavant. D'ailleurs, j'imaginais que ça devait être quelque chose de pas intéressant du tout. J'avais lu un peu Lorenz. Je me disais, c'est peut-être très mécanique finalement, et tout ce que Lorenz raconte. On fait des frontières, et puis on se bagarre aux frontières, et puis c'est pas très malin, quoi. Et puis donc ça c'est bon, donc j'avais pas beaucoup de raisons. Et puis j'avais quand même une chose qui m'avait éveillée, c'est que j'avais travaillé avec des enfants sur la question du chez-soi des animaux. Et on avait fait une conférence pour des enfants, et puis donc j'avais un peu de recherche. Et Stéphane Durand, le directeur de la collection Monde Sauvage, m'avait dit: pourquoi tu nous fais pas une version pour les grands sur le chez-soi? Et puis je me dis: bah, chez-soi c'est quoi en fait? C'est ça prend la notion en science. En tout cas, en éthologie, c'est le territoire. Et je me suis dit, ça, c'est vachement intéressant. Mmh. Parce que le territoire, c'est quand même une notion sérieusement politique. Et une notion sérieusement actuelle au point de vue politique. La question des frontières, la question d'être chez soi, de pas être chez soi. Et je me suis dit, est-ce que les oiseaux sont aussi bêtes que nous? Pour le dire un peu simplement. Mais bon. Et j'ai découvert que les ornithologues étaient extrêmement attentifs à justement ne pas politiser cette question trop vite, ne pas penser dans les termes juridiques qui sont les nôtres, ne pas penser que les oiseaux ont des propriétés privées.
Oui. Bah pas faire de l'anthropomorphisme finalement, voilà. Quoi, hein, c'est
et ça. Et non seulement ne pas faire de l'anthropomorphisme, mais ça ils y sont bien attentifs. Et ça dépasse. Pour la question du territoire, c'est encore plus nécessaire d'être rigoureux, parce que notre conception du territoire, c'est pas du tout une conception naturelle, c'est une conception qui est héritée du XVIIe siècle et qui est profondément modifiée au XVIIe siècle et sous laquelle on circule avec une telle évidence qu'on a le sentiment que propriété privée et territoire, c'est pareil, et c'est normal, la propriété privée est normale, le contrat social se base sur la propriété privée, la protection des biens, etc. Alors qu'avant le XVIIe siècle, c'était beaucoup plus social comme conception. La conception du territoire, c'était le partage des lieux, pas du tout le petit bourgeois propriétaire exclusif d'un bien dont il peut user et abuser. Et je pense que les ornithologues, en tout cas ce qu'il en ressort, c'est qu'ils étaient très attentifs, attention, ça, c'est pour les humains, cette histoire de propriété privée. Les oiseaux ne sont pas dans ces questions-là.
Alors, sauf que, est-ce que finalement un oiseau, il ne peut pas aussi avoir un côté petit bourgeois en voulant absolument préserver son territoire? Parce que vous avez découvert des choses qui sont absolument fascinantes dans ce domaine. Hein.
Alors, on pourrait imaginer qu'il y en a toujours parmi eux.
Ouais.
Il semblerait que certains critiques disent des rouges-gorges, qu'ils sont particulièrement pugnaces sur cette question. Il y a même des ornithologues qui pourraient le dire avec l'humour que j'essaie d'emprunter, ce chemin de l'humour. Mais c'est, en fait, ils sont plus compliqués que ça. D'abord, on ne peut plus parler des oiseaux. Enfin, j'habite en oiseaux, mais quand on parle des oiseaux, on parle d'espèces différentes. Et il peut y avoir, s'il y a beaucoup de similitudes entre les oiseaux, bon,
oui,
les plumes, les volées, etc., etc., il y a énormément de différences. Et par exemple, ce qui vaut pour une alouette des champs ne vaudra pas nécessairement pour un rouge-gorge, ne voudra peut-être pas pour un rossignol, etc. Parce que leur méthode d'organisation, leur mode d'organisation, même s'ils sont semblables dans la mesure où ils font territoire et que ce qu'on appelle un territoire en ornithologie, ça les ornithologues sont d'accord, c'est n'importe quel lieu défendu, c'est une définition minimaliste mais qui fonctionne bien. Mais pourquoi on le défend, comment on le défend, contre qui on le défend, ça reste très ouvert. Et c'est là où justement il y a des variations étonnante entre les oiseaux. Et ces variations, par exemple, prennent des formes que, avant, bon, les premières recherches disent, bon, mais c'est pour protéger un espace alimentaire, économiquement, économiquement, je veux dire, au point de vue de l'économie, du comportement, c'est compréhensible. C'est vrai qu'aller très loin à chercher de la nourriture et laisser les petits tout seuls, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, gérons les choses de telle sorte, restons le plus près de chez nous possible pour se nourrir. Et puis d'autres vont dire, mais c'est pas vrai du tout, regardez, ils laissent les autres entre, certains laissent entrer les autres sur leur territoire pour se nourrir aussi, ils ont des territoires de nourriture communs, donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et des théories de plus en plus compliquées vont advenir, qui montrent qu'en fait, c'est pas tellement des histoires de propriété, c'est des modes d'organisation sociale très sophistiqués.
Oui, puis c'est carrément vital pour les oiseaux qui sont d'ailleurs très largement monogames aussi, parce que le territoire, vous le montrez, c'est aussi un lieu de rencontre pour faire couple.
Oui,
aussi,
c'est ça. Alors ça faisait partie des hypothèses, des toutes premières hypothèses d'ailleurs, où il y avait par exemple des ornithologues qui disaient déjà dès la fin du 19e, les tout premiers qui ont observé la question territoriale. Enfin, avant, on voyait bien qu'il y avait des oiseaux qui gardaient des lieux et qui empêchaient les autres d'approcher, des choses comme ça. Mais en fait, bon, les recherches scientifiques, il y en a un qui disait, en fait, s'il n'y avait pas de territoire, bon, ils se rencontrent, ils font des petites choses ensemble, et puis il faut construire le nid quelque temps après, il faut quand même que le nid soit prêt à temps. Oui, mais alors à ce moment-là, ils n'ont plus aucune liberté, puisque s'ils vont se balader, ils se retrouveront peut-être jamais. Donc au moins avoir un territoire sans lieu de rendez-vous, disent certains. D'autres disent, une fois qu'un mâle a un territoire, il peut commencer à parader et à appeler la femelle. Une fois qu'un mâle a un territoire, ou un mâle et une femelle ont un territoire, parce que ça reste un peu machiste quand même, l'ornithologie malgré tout, une fois qu'ils ont un territoire ensemble, peut-être qu'à ce moment-là, il y a des oiseaux qui sont un peu coquins et qui essayent tout le temps de venir, dès que le mâle a le dos tourné, il essayerait bien de venir un peu voir la femelle, eh bien au moins le territoire permet de dire, ici c'est chez nous. Quoi. Et donc il y a de multiples façons, en effet, déjà d'organiser, de synchroniser la rencontre.
Oui, Vincent Després, on parlera évidemment avec vous de l'importance du chant, du voisinage aussi, qui est très important sur le territoire des oiseaux. Et puis vous, ce qui vous a passionné aussi, c'est la science elle-même de l'étude des oiseaux, puisque ce livre, c'est aussi sur les observations que vous avez faites, vous, du travail d'ornithologue, et des controverses d'ailleurs assez nombreuses au sein même de la profession pour que les hypothèses puissent s'affronter, être défendues. Ça s'appelle « Habiter en oiseau », vous êtes l'invité de la Terre au Carré. Les auditeurs peuvent vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur franceinter.fr et puis également au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Passauvert, vous revenez Camille Cronier aujourd'hui sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et son traitement, mais cette fois médiatique.
Oui, je vous ai parlé de la communication politique lundi, aussi catastrophique que l'événement en lui-même. Mais la façon dont il a été traité dans les journaux, à la télé, à la radio est aussi un sujet. Écoutez plutôt quelques extraits des nombreux messages d'auditeurs au sujet des antennes nationales relayés par la médiatrice de Radio France.
Tout sur la mort de Monsieur Chirac, rien sur l'incendie de Rouen alors que des vies sont en danger, l'environnement en péril. Vous choisissez le mauvais sujet.
Vous ne semblez pas trouver digne d'intérêt la catastrophe écologique majeure qu'est l'incendie de l'usine Lubrizol. Au vu du peu de temps que vous lui consacrez, je trouve cela honteux.
Même la mort de Jacques Chirac ne justifie pas que l'on accorde si peu d'importance à cet événement dont on ne connaît pas encore la portée sur le plan écologique et humain.
Presque pas un mot sur la catastrophe environnementale suite à l'incendie de Lubrizol à Rouen. France Inter avait annoncé son souhait de mettre l'accent sur les problèmes environnementaux. C'est gagné.
Pas la peine d'annoncer que la rédaction est portée sur l'écologie et de créer une nouvelle émission à 13h30.
Alors là, il parle de nous, qui avons aussi été critiqués et qui avons même carrément sauté jeudi dernier, car France Inter, comme toutes les chaînes nationales, est passée en édition spéciale. 2 heures entre midi et 14h, où Rouen et toute autre actualité ont effectivement disparu de la carte. C'est Bruno Duvic qui est aux manettes.
À 11h57, on a la dépêche de l'agence France Presse qui dit « Jacques Chirac est mort, famille ». Et il y a tout de suite une espèce de tempête dans la rédaction.
Alors Bruno se retrouve à l'antenne à midi une avec une feuille blanche. Le journal de 13h qu'il était en train de préparer part à la poubelle.
Il y avait quoi dans le 13h ?
Ah ben dans le 13h, il y avait Rouen.
Alors, qui devait prendre un tiers du journal, Rouen, mais rien donc à la trappe. Et Bruno Duvic analyse a posteriori.
Alors, la vraie réponse à froid, c'est qu'on aurait dû en parler. On aurait dû ouvrir une fenêtre sur Rouen. On aurait pu et on aurait dû.
Est-ce que c'est pas un peu facile de le dire a posteriori ?
Voilà, c'est pour ça que je vous dis à froid. À chaud, pour être très honnête, moi, à l'antenne, je suis dans la concentration de qui on va avoir ensuite. Parce qu'en fait, comment ça se passe, les spéciales comme ça ? On a un chef en régie qui me dit « tu as machin, tu as truc, tu as un tel, tu as une telle ». Et donc, on est dans un flow. Donc, la vraie réponse, à chaud, non, je n'y pense pas.
Alors, sur le fil de l'agence France Presse, on n'est pas les seuls. 4 dépêches sur Lubrizol entre 11h57 et 14h, plus de 70 sur Jacques Chirac. L'idée n'est évidemment pas de minimiser l'information qu'est le décès de l'ancien président, mais de comprendre, de décrypter comment et pourquoi, surtout, ça vient masquer, étouffer tout le reste. La directrice de l'information de France Inter elle-même, Catherine Neil, reconnaît l'emballement.
On est nous-mêmes, je dirais, submergés par les réactions, par l'importance malgré tout de cette mort. Ça ne justifie en rien le fait, bien sûr, là, à la relecture, je peux tout à fait vous dire, oui, on aurait dû passer 5 minutes sur Rouen. Et quand on est sorti de cette spéciale, on s'est dit immédiatement, attention, il ne faut pas que la mort de Jacques Chirac écrase tout le reste.
Donc Rouen réapparaît, mais en tout petit, jeudi soir, Fabienne Sintès.
Sinon, l'actualité ce soir à 18h, presque 17, c'est un immense nuage de fumée au-dessus de la Normandie.
Un panache de fumée de
16 minutes 30 de journal sur Jacques Chirac, 1 minute 30 sur Lubrizol. À 19h, ce sont 22 minutes sur le décès de l'ancien président, 2 sur la Normandie. Vendredi matin, Rouen est dans les titres et loin dans le journal.
Il est 7h10 dans l'actualité ce matin également, les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.
Un reportage à Rouen dans le 7h après 5 sujets sur Jacques Chirac, c'est Mickaël Thébault, le rédacteur en chef de la matinale, qui fait ce qu'on appelle la répartition.
Donc, vendredi matin, il y a une seule entrée dans les grosses éditions, donc 7 et 8, sur Rouen. 7h30.
Il n'y est pas même.
C'est qu'une brève.
Pourquoi ?
En revanche, là, c'était pour éviter d'en faire trop. Et puis, pour une question de place, parce que tu vois, Chirac, là.
Prend toute la place.
Est-ce que cette disproportion, elle est justifiée à ce moment-là ?
Au lendemain de la mort de Jacques Chirac, oui, je trouve ça justifié. En plus, ce que je veux dire, un peu paraître cynique, mais il n'y a pas eu de victimes. Très objectivement, s'il y avait eu 3 morts, 10 morts, la répartition n'aurait pas été la même.
Et Catherine Neil confirme.
Rouen, ça n'est pas EDF.
Elle tempère aussi en se replaçant à jeudi et vendredi dernier.
On ne peut pas non plus avoir le regard aujourd'hui qui était le regard qu'on avait à l'époque avec une somme d'informations que nous n'avions pas.
D'ailleurs, le sujet redevient visible dans le week-end. Alors, à ceux qui y verraient dans ses absences un certain dédain aussi pour les actualités liées à l'environnement, Bruno Duvic, cette fois, répond.
Je pense pas qu'à partir de cet exemple-là, on puisse dire le politique passe devant l'environnemental. Je crois vraiment pas. La reine d'Angleterre serait morte ou Belmondo serait mort. Je pense qu'il y aurait eu le même phénomène.
Et oui, souvenons-nous aussi de Johnny Hallyday. Quant à y voir également un certain parisianisme, que se serait-il passé si nous, les médias nationaux, basés dans la capitale, avaient eu ce nuage noir au-dessus de la tête? Impossible de le savoir, ça s'appelle de la fiction. En revanche, on les salue, les médias locaux, France Bleu, France 3, Paris Normandie, qui ont donné toute sa place à Lubrizol dès le départ. Depuis lundi après-midi, la séquence Chirac est refermée et le temps suspendu comme un nuage noir a repris son cours, avec désormais la suie retombée, l'attente des réponses sur l'impact écologique et sanitaire de cette catastrophe pour tout le monde.
Merci beaucoup Camille Cronier. Camille passe au vert. On peut réécouter évidemment votre chronique sur franceinter.fr. Habiter en oiseau, Vinciane Després est philosophe. Elle est notre invitée dans la Terre au carré.
Like you're not afraid of anything I do.
How won't you hear?
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way you say yes when I ask you to marry me. You don't know what you're doing. Do you think you can carry me over the threshold, over and over again until I believe you? It's a way that you're gonna stop needing to tell me you want me as much as I want you to. Tell me I'm over the threshold and everything's gonna be totally okay.
It's like inside in a city loose me.
Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale de cette Terre au Carré. Avec à l'instant The National, c'était Oblivious.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Vinciane Després, philosophe, avec cet ouvrage Habiter en oiseau qui paraît chez Actes Sud dans cette collection Monde Sauvage. Quelle sorte d'oiseau est-ce que vous aimeriez être, Vinciane Després?
Probablement un merle, oui.
Un
merle pour chanter.
Vous qui êtes habillé tout en rose aujourd'hui.
Ben, un merle
noir. Un merle rose.
Pas un rouge-gorge avec ce qui a été dit tout à l'heure.
Non, absolument. Allez, on parle oiseau avec vous, on parle territorialité. Juste un mot avant d'accueillir François qui nous attend au standard de la Terre au Carré. Qu'est-ce qui se passe entre l'hiver et le printemps justement pour l'oiseau du point de vue de la territorialité? Parce que vous dites que ça change complètement en réalité.
Oui, il y a une métamorphose, ouais. C'est vrai. Et en fait, c'est ça qui a intrigué les premiers ornithologues qui étaient des amateurs. En fait, le premier ornithologue qui a vraiment lancé le courant de recherche qui s'appelle Elliot Howard, qui est un Anglais, qui était un monsieur qui était directeur d'une société, qui allait travailler tous les matins à 8-9 heures du matin, et qui se levait vers 3-4 heures du matin pour aller observer les oiseaux. Et le territoire est apparu quand il était tellement intrigué par le fait que des oiseaux qu'on avait vus pendant tout l'hiver être ensemble, aller manger, faire les champs, voler de conserve, etc., d'un seul coup se mettent à s'isoler progressivement les uns des autres. Ils partent une petite heure et ils s'isolent, ils vont se mettre ailleurs. Et puis, ils augmentent cette temporalité jusqu'à un moment donné où ils vont ne plus supporter, comme s'ils ne supportaient plus la présence des autres.
C'est drôle,
et
ça.
Ils chantent à tue-tête de manière très répétitive. Ils vont choisir un lieu, ils vont choisir un promontoire et ils vont se mettre à arpenter ce lieu par des vols et par des chants. Et si, à partir du moment où les choses commencent à se stabiliser, un voisin ou un autre essaye de passer une frontière invisible à nos yeux, mais qui est très visible pour eux, à ce moment-là, on a une espèce d'énorme conflit.
Voilà, donc l'hiver ça va, et à partir du printemps, c'est le bazar, plus personne ne se supporte. François est avec nous en ligne. Bonjour François.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
On vous écoute.
Écoutez, moi j'utilise les oiseaux, je suis garde forestier à l'Office National des Forêts, et je fais comme un certain nombre de mes collègues, je suis victime de la plantation d'épicéas des années 70, plantée massivement sur d'immenses surfaces et qui sont aujourd'hui victimes du réchauffement climatique. Et de petites bêtes qu'on appelle des scolytes, qui les mangent et qui les détruisent. Donc, on les coupe, et derrière, on a quelque chose qui ressemblerait à une steppe. Et en fait, en prenant certaines précautions, on peut arriver à utiliser les oiseaux pour replanter sur des surfaces considérables, à des coûts très inférieurs à ceux qu'on aurait besoin pour planter de main d'homme.
Donc, ça veut dire que les oiseaux sont vos alliés, François ?
Alors, les oiseaux sont nos alliés à une condition, c'est qu'on mette en place de la végétation, qu'on conserve la végétation existante, ou qu'on en crée, de façon à ce que les oiseaux ne traversent pas un désert, si vous voulez. Quand vous avez un geai qui doit, pour l'hiver, stocker sa nourriture dans le sol, il ne va pas traverser 5 hectares, il va traverser 40 mètres, pas plus. Et puis, si vous disposez, parce qu'il y a un arbre abattu à droite, un arbre abattu à gauche, des repères horizontaux, l'oiseau, lui, va utiliser ça comme repère géographique. Il va planter 4, 5, 6 000 graines, vous imaginez, par hiver, et on aura, au printemps, les chênes qu'il aura laissées. Soit il les a laissées parce qu'il ne les retrouve plus, soit il les a laissées parce que c'est les graines germent et puis il est passé à un autre style de nourriture.
Vinciane Després, qu'est-ce que ça vous inspire, cette évocation de François là ?
C'est superbe, monsieur, comme histoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous indique ce que, d'abord, qui me met de la joie dans le cœur, parce que ça veut dire que le monde est en train de, il y a quelque chose qui a changé. Et je dis qu'il y a quelque chose qui a changé parce que non seulement les oiseaux sont vos alliés, mais vous êtes leurs alliés. Les soins que vous prenez et ce que vous êtes en train de créer, c'est un système écologique. Je vais dire un vrai système d'interdépendance où vous savez que vous devez aider vos oiseaux à revenir et à tenir le coup et qu'en revanche, eux vont faire des tas de choses qui vont refaire de la forêt, refaire des lieux vivables et pour les humains et pour les oiseaux. Et si je dis que les choses changent, c'est parce que je me souviens d'articles que j'ai lus dans mes recherches sur le territoire, notamment dans les années 50, il y a toute une série de chercheurs successifs qui ont décidé d'étudier l'effet de l'influence de la prédation d'oiseaux sur une chenille mangeuse, enfin qui détruisait les arbres des forêts américaines, dans le monde des États-Unis. Une chenille qui s'appelle du nom assez désopilant, mais l'histoire est beaucoup plus tragique que ça, la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Voilà. Bon, on a envie de rire et puis on ne rit plus quand on lit l'histoire. Et ils ont décidé de savoir quel est l'effet de la prédation et comment les oiseaux les aident. Et bien, en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de prendre une forêt assez considérable, une zone expérimentale, une zone contrôle, et ils ont décidé de tuer tous les oiseaux qui occupaient cette forêt, pour voir quels étaient les effets par rapport aux chenilles. Seulement ces oiseaux qui étaient territoriaux, une fois qu'ils ont libéré le territoire en étant morts, d'autres oiseaux venaient prendre possession. Et donc, ce massacre n'a pas cessé pendant des mois.
Pour rien.
Et ça n'a servi à rien.
Juste pour savoir, est-ce que les oiseaux ont des effets prédateurs et comment ? Alors qu'on le savait, et je trouve que c'est tellement, c'est pour ça que je dis, ça me met de la joie dans le cœur, c'est l'histoire qu'on raconte, parce que maintenant, on va pas du tout aider, leur demander combien êtes-vous capable de faire, on va dire comment peut-on vous aider à faire, à nous aider par rapport aux forêts, comment est-ce qu'on peut vous aider à nous aider, et c'est tout à fait différent.
Camille, il y a des témoignages,
un témoignage
des messages,
de collègues sur un territoire un peu particulier, témoignage sur Facebook. Il y a pas mal d'années, une demi-fille de 7 ans va à l'école. Un jour, un oiseau arrive et se pose sur sa tête. Tout le monde est en haleine. Ma fille commence à avancer avec l'oiseau sur la tête. Puis la petite corneille s'en va. Et ainsi, tous les matins, pendant plusieurs semaines, l'oiseau venait se poser sur sa tête. Et pas sur celle des copines ou copains, faisait un bout de chemin avec elle. Elle venait d'une maison pas loin de chez nous, cette petite corneille. Puis un jour, elle n'est plus venue. Nous avons tous été un peu tristes. Donc on peut être le territoire d'un oiseau. Nous-mêmes.
Alors, ici, on ne parlerait pas. Alors, on parlerait de territoire si. Mais c'est possible que ce soit arrivé. Si une autre corneille était arrivée et que la tête de la petite fille devenait un lieu défendu. Parce que moi, je respecte la définition des scientifiques. Mais il y a peut-être quelque chose de. En fait, le territoire, ça, c'est la définition la plus rigoureuse que je vous ai donnée. Mais il y a un scientifique dans les années 50 qui avait proposé que, par exemple, les oies et les canards qui ne semblent pas avoir de territoire, mais semblent interdire l'accès à une certaine zone autour de leur corps aux autres animaux. Donc il y a une zone
un cordon de sécurité.
Ouais. Et donc le territoire, ces animaux le promènent avec eux. Et donc le territoire est un territoire nomade, mobile, et dont le chercheur disait de manière très très jolie, et en plus que nous ne savons pas c'est s'ils sont de même dimension quand elles sont dans les airs, quand elles sont dans l'eau, ou quand ils sont dans l'eau, et quand ils sont sur terre. Dans un moment, il est mobile, mais il sera probablement variable.
Michel est en ligne avec nous au standard de la Terre au Carré. Bonjour Michel.
Bonjour, merci de prendre mon appel. C'est un petit coup de gueule, mais enfin qui a une certaine importance quand même. C'est les dégâts. Ça concerne les dégâts causés par le nombre exorbitant de chats que l'on abrite en France. Je citais mon exemple personnel. Il y a 2-3 ans, j'ai enterré 6 merles dans mon jardin. C'était les simples victimes du chat de ma voisine. Ouais. Alors cela répété par des dizaines d'habitants qui abritent aussi des chats, les dégâts sont certainement considérables.
Alors c'est vrai Michel, vous avez raison, on peut parler de serial killer à l'échelle mondiale d'ailleurs, Vincennes Després, avec les chats. Ils tuent des milliards d'animaux tous les ans.
Les chats sont devenus, enfin, et quand je dis sont devenus un problème, parce qu'en fait les choses ont changé, c'est que maintenant qu'on s'inquiète en effet pour la survie des oiseaux, on s'inquiète aussi de ce qui leur arrive. Et donc là, les choses changent. Il y a peut-être aussi un très grand nombre de chats qui, les programmes de stérilisation, etc., n'arrivent pas à faire face à tout. Mais il est vrai que les chats posent un vrai problème.
Est-ce qu'il y a une régulation au sein des oiseaux, justement, sur un même territoire, lorsqu'ils commencent à devenir trop nombreux entre eux?
Alors, c'est une des hypothèses pour expliquer la raison pourquoi la sélection naturelle aurait gardé, en tout cas, cette structure aussi étonnante et étrange qu'est le territoire. C'est une des hypothèses possibles. Et c'est le fait que, en effet, si tous les oiseaux se reproduisaient, il y aurait peut-être, disent certains théoriciens, mais je suis pas sûre que c'est aussi clair que ça, il y aurait explosion démographique. Et que le territoire, en limitant la possibilité que tous se reproduisent, puisqu'il faut être territorial pour se reproduire, aurait, d'une certaine manière, favorisé des régulations démographiques. Mais c'est très contesté.
En tout cas, on découvre dans cet ouvrage que la façon d'être en société des oiseaux est extrêmement sophistiquée. Cette affaire de territoire, vraiment, c'est une vraie science en soi. Est-ce qu'elle pourrait nous inspirer, nous autres humains? Parce que vous parlez de cette question-là. Vous dites, mon livre, il sert à penser, finalement. Mais vous ne proposez rien là-dessus.
Moi, je ne fais aucune analogie. Ouais. Alors, je ne fais aucune analogie pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve qu'elles sont dangereuses à faire. Mm-hmm. Dans la mesure où, si je ne peux déjà pas comparer une alouette des champs trop facilement avec un rouge-gorge, passer à l'humain, ça tient du grand écart. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que mon travail de philosophe, c'est d'ouvrir l'imagination, d'ouvrir la pensée. Et donc, je donne tout ce que j'ai découvert et qui m'émerveille pour que les lecteurs puissent eux-mêmes faire leur travail.
Merci Vinciane Després. Vous avez ouvert notre cerveau en tout cas. Et ça s'appelle Habiter en oiseau. Ça paraît aux éditions Actes Sud. Merci infiniment d'être venu dans la Terre au carré. Vos solutions pour la planète dans un instant. On parlera d'un collectif de citoyens qui dénonce le projet Europa City. Vous écoutez France Inter, il est 14h.
La Terre au carré.
Et si vous nous rejoignez dans un instant, la chronique détox de Caroline Tourbe qui s'intéresse à la compagnie Air France aujourd'hui qui veut compenser 100% de ses émissions carbone sur ses vols intérieurs. Et puis notre invité découverte est le photographe Éric Tourneret. Lui est spécialiste des abeilles et va nous parler d'une exposition à voir en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle.
Ça fait du bien
de
parler un peu des petits animaux.
Absolument. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète et nous sommes en ligne avec vous, Jean-Yves Souben. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes vice-président du CPTG, c'est le collectif pour le triangle de Gonesse. Vous êtes également élu Europe et l'écologie Les Verts au Blanc-Mesnil. Et vous êtes en marche vers Matignon, marche citoyenne. Vous y serez normalement demain. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement, Jean-Yves Souben?
Alors là, pour le moment, on a été accueillis par le comité contre le bétonnage du parc Georges Valbon à La Courneuve et on fait la pause méridienne. On était en train de se reposer un petit peu.
Vous êtes nombreux ?
Alors on est entre 120 et 130 personnes.
Ah, c'est pas mal. Donc le but, c'est d'aller à Matignon demain, c'est ça ?
Alors l'idée c'est de rejoindre, on fait des petits détours hein, pour rejoindre des comités de lutte qui nous ont aidés, qui nous aident depuis le début. Mmh. Et donc ici sur le parc Georges Valbon, ce soir on s'arrête à Pantin à la Cité Fertile. Et certains marcheurs vont dormir là. Moi je vais retourner dormir chez moi puisque j'habite juste à côté du triangle de Gonesse. Et puis demain on reprend la marche sur Stalingrad, République, Bastille. Mmh. Et de Bastille il y aura des prises de parole d'un certain nombre de personnalités et puis là on repartira sur la rue de Varennes.
Alors Jean-Yves Souben, expliquons aux auditeurs, hein, le but de votre marche c'est de sauver donc les terres agricoles de la plaine de France en opposition à ce projet Europa City. Vous nous rappelez ce que c'est en quelques mots ?
Oui, alors il n'y a pas seulement Europa City, hein, c'est que en fait il y a un projet de ZAC qui avait été annulé par le tribunal et puis le gouvernement a fait appel et cet été le gouvernement a relancé les travaux. Allô ?
Oui, on vous entend.
Oui, a relancé des travaux pour une gare. Alors que le Premier ministre a reculé l'arrivée du métro dans le nord de la ligne 17 à 2027. Donc on s'apprête à construire une gare sans métro en dessous, en plein dans les champs, donc qui ne bénéficiera pas du tout aux Gonessiens. Donc nous, ce qu'on demande, c'est à Édouard Philippe de lancer un moratoire pour stopper tous les travaux tant qu'il n'a pas statué politiquement sur le devenir du triangle de Gonesse. On sent bien de plus en plus que Europa City a du plomb dans l'aile. Mais en fait, leur idée, c'est de construire une gare. Et puis une fois qu'il y a une gare, faut bien mettre des activités autour. Et donc cette politique du fait accompli, nous on essaye de la stopper là, d'où cette marche, et pour demander à Édouard Philippe en vitesse un moratoire.
Alors on peut rappeler que le projet Europa City prévoit 500 boutiques de luxe, 2700 chambres d'hôtel, c'est énorme, un centre aquatique climatisé, une piste de ski artificielle, et la création d'une superficie de bureaux égale à la moitié de celle de la Défense. Vous pensez qu'Édouard Philippe va vous accueillir demain ?
Alors, nous, on espère bien que Édouard Philippe nous accueillera parce que il y a une urgence. On a été reçu par Elisabeth Borne la semaine dernière, qui a lancé une consultation de toutes les parties, de façon à rendre un avis au Premier ministre. Et la décision sera sur le bureau du Premier ministre entre le 10 octobre et fin octobre. Pour rappeler un petit peu ce que c'est Europa City, donc vous l'avez dit, hein, 500 boutiques, c'est vraiment un centre commercial du siècle dernier. C'est quelque chose dont les gens ne veulent plus. D'ailleurs, dans le même périmètre, hein, sur un rayon de 4,5 km, on a Aéroville qui ne fonctionne qu'à 40% de sa capacité. Mmh. On a Paris Nord 2 et Haut Paris Nord qui totalisent environ 540 boutiques.
Et Europa City veut mettre dans ce même périmètre 500 boutiques.
Jean-Yves Souben, pour expliquer aux auditeurs, ce qu'il faut dire, c'est que le cœur aussi de ce problème, c'est la question de l'artificialisation des sols, parce que c'est une terre là-bas qui est d'une extrêmement bonne qualité et qu'on va condamner pour construire ce méga-centre commercial.
Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, les terres arables, la couche de terre arable, c'est entre 30 et 35 cm, et ici, dans le triangle de Gonesse, on a entre 6 et 8 mètres de terre arable. Mmh. Donc on a une terre d'une excellente qualité, et lorsque les fouilles de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, lorsqu'ils ont fait des fouilles, moi j'ai passé une journée avec des chercheurs, ils nous ont montré les silos à grains qui datent de 2500 ans du néolithique. Donc ne serait-ce que du point de vue patrimonial, on est là sur, on sait pourquoi la capitale s'est installée à cet endroit-là, c'est qu'on pouvait y cultiver des céréales et les conserver. Et donc ne serait-ce que du point de vue patrimonial, il faudrait le conserver, mais en plus de ça, on sait maintenant, grâce aux chercheurs agronomes, que si jamais on bétonne ces terres-là, en période de canicule, on élève la température de la capitale d'au moins 2 degrés. Donc comme on sait qu'en 2003, pendant la canicule, c'est la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise qui ont eu le plus à souffrir de la canicule, il y a eu urgence, parce qu'on s'en apercevra quand ça sera trop tard, quand tout sera bétonné, mais là ça sera trop tard, des terres qui ont été bétonnées, on n'a jamais vu des terres bétonnées revenir à l'agriculture.
Alors Jean-Yves Souben, on y reviendra évidemment dans la Terre au Carré, parce qu'il y a un vrai dossier à faire sur la question d'Europa City.
Ah oui.
Dans un article du Monde publié aujourd'hui, on apprend que les promoteurs envisageraient des mesures plus écologiques, donc il faudra également en discuter.
Donc le Grand Paris, les promoteurs.
Et puis parler évidemment de ce collectif Karma, puisque vous proposez de votre côté un projet alternatif avec de la production maraîchère pour alimenter en produits frais. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, on voulait juste vraiment signaler votre marche citoyenne, Jean-Yves Souben. Merci d'avoir été en ligne.
La marche va prendre encore de l'ampleur, parce qu'il y a pas mal de collectifs qui vont nous rejoindre en cours de marche, notamment le collectif de Romainville, le collectif pour l'eau de Bagnolet, qui vont venir nous rejoindre, et puis demain encore des personnalités et des collectifs qui vont nous rejoindre. Donc demain à Bastille à 14h, on devrait être très très nombreux. Il y aura Yannick Jadot, Clémentine Autain, il y aura
et des citoyens surtout. Voilà. Alors, merci Jean-Yves Souben, on est obligé de terminer. On est obligé de terminer, je suis désolé, parce qu'on est vraiment très en retard. En tout cas, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, on a noté le rendez-vous. Et puis, il y a nom@europacity.com qui est le site pour tout savoir. Merci beaucoup à vous. Merci d'être intervenu dans l'émission aujourd'hui. Caroline Tourbe, la compagnie Air France veut compenser 100% des émissions carbone de ses vols intérieurs d'ici 2020. Et votre chronique détox en parle aujourd'hui.
Tout à fait, on écoute.
Ça, c'est de la pub, ça.
Hein. Tout à fait. Charmante petite musique qui nous dit que love is in the air. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que carbone is in the air. C'est un peu la nouvelle musique entêtante qui trotte dans la tête des passagers. Je vous parle bien évidemment du fameux mouvement venu de Suède, le Flixcam, la honte de prendre l'avion, qui est le résultat de la prise de conscience par une partie de la population du poids du transport aérien dans les émissions des gaz à effet de serre.
Et c'est vrai que les chiffres sont assez frappants, Caroline.
Oui.
Hein.
En 2018, plus de 38 millions de vols ont été comptabilisés dans le monde, ce qui correspond à 2,5 ou 3% des émissions totales de carbone, mais c'est surtout lorsque l'on compare les moyens de transport que le résultat fait mal. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en prenant en compte le taux de remplissage, pour 1 km parcouru par un passager en avion, il faudrait compter 285 grammes de CO2 émis. En voiture, c'est 104 grammes, pas loin de 3 fois moins que l'avion. Et en train, c'est à peine 14 grammes de CO2. Alors non, ce n'est pas vraiment un hasard si Air France a annoncé cette semaine qu'elle voulait compenser l'ensemble des émissions de CO2 de ses vols en France métropolitaine dès le 1er janvier 2020.
Et ce n'est pas la seule raison qui pousse à cibler les vols courts d'ailleurs. Hein.
Non, le Flixcam, ce n'est pas la seule raison. Le contexte est loin d'être anodin en ce moment pour les compagnies aériennes en France. Un nouveau spectre les menace, c'est celui de l'écotaxe, inscrit noir sur blanc dans le projet de loi de finances 2020. Ce texte imposerait une taxe allant de 1,50€ en classe éco à 18€ en classe affaires pour chaque vol au départ de la France. Alors évidemment, ça peut vite peser lourd sur le prix des vols courts.
Alors surtout, les sauts de puce en avion sont particulièrement polluants.
Oui, également. Si on raisonne en CO2 émis par kilomètre et par passager, ils pèsent lourd. Pourquoi? Alors on écoute.
Mmh.
et on n'entend que la phase de décollage. Lorsque le pilote pousse à fond la manette des gaz, eh bien, c'est celle où les réacteurs brûlent le plus de kérosène par minute. Une consommation dont le poids relatif pèse fatalement plus sur les trajets courts. Alors, à titre d'exemple, sur des appareils équivalents, en chiffres bruts, un Paris-Lyon, c'est 174 grammes de CO2. Un Paris-Athènes, c'est 96 grammes par kilomètre et par passager. Bon, attention tout de même, il ne faudrait pas se dire que plus on vole loin,
on va aller très loin comme
voilà,
ça.
Voilà, hein. Moins on pollue, parce qu'évidemment, c'est faux. Quand on multiplie par le nombre de kilomètres réellement parcourus, le Paris-Athènes, c'est plus de 200 kg de CO2 émis, contre à peine 72 pour rallier Lyon.
Alors, est-ce que c'est vraiment possible, parce que c'est le cœur de votre question, de compenser 100% des émissions des vols intérieurs dès janvier prochain?
Sur le papier, oui. Si ce programme d'Air France est assez inédit à cette échelle, en fait, en soi, il est assez classique. La compagnie va financer des programmes certifiés de compensation carbone en investissant dans des projets d'énergie renouvelable ou en plantant des forêts qui stockent naturellement le carbone. La direction d'Air France parle de planter l'équivalent de 70 millions d'arbres et c'est vrai qu'il va en falloir pour compenser les émissions de CO2 de quelque 165 000 vols intérieurs chaque année, soit environ 20 millions de passagers qui sillonnent la France métropolitaine. Bon, il faut évidemment souligner que ce programme restera très partiel parce qu'à titre de comparaison, Air France KLM fait voyager plus de 100 millions de passagers, rien que l'année dernière.
Et puis la compensation carbone a quand même ses limites.
Oui, elle a ses limites et chez les spécialistes du climat, on peut même dire que c'est un sujet qui divise énormément. Ces détracteurs expliquent que d'un côté, on brûle du pétrole qui émet du carbone et que ça, c'est définitif, alors que de l'autre côté, pour le compenser, on plante des arbres qui ne sont pas un stockage si pérenne que cela. Il suffit de les couper ou de les brûler pour que du carbone soit immédiatement relâché. Quant au financement des programmes de transition énergétique, une étude pour le compte de la Commission européenne montre que dans la grande majorité des projets sélectionnés, dans le cadre des accords de Kyoto, eh bien, on voit qu'ils auraient de toute façon vu le jour, même sans ces financements.
Alors, il n'y a vraiment pas de solution?
Alors, à titre individuel, on va dire qu'on peut réfléchir, on peut comparer donc avec les autres moyens de transport. Et pour des décisions plus globales, on peut signaler une loi examinée en mars dernier aux Pays-Bas qui visait à supprimer la liaison aérienne entre Amsterdam et Bruxelles, deux villes qui sont distantes de 200 km à peine. Ouais. Alors, ce n'est pas encore fait, mais déjà, à certains horaires, quand vous allez sur le site de KLM, on vous propose directement de ne pas vous envoler, mais d'aller à la gare pour prendre un train.
Étonnant. Merci beaucoup Caroline Tourbe, votre chronique détox est bien sûr à réécouter sur franceinter.fr à vendredi prochain. La semaine prochaine, notre série de reportages va nous emmener à Langouette, le village breton presque 100% écolo. Vous connaissez certainement son maire, Daniel Cueff, qui a défrayé la chronique depuis qu'il a pris son arrêté anti-pesticide. Sandrine Dauphin a passé plusieurs jours sur place. Et lundi, on fera connaissance avec Thierry Leduf, le cuisinier de la cantine de l'école. Extrait du reportage.
Voilà, là, on se trouve dans la cantine de l'école de Langouette. Et vous êtes donc Thierry, le cuisinier. Thierry comment ?
Thierry Leduf.
Et alors, qu'est-ce qu'on mange à midi ?
Alors, ce midi, c'est un rôti de bœuf. Et avec des petits légumes de saison, donc il y a des carottes, aubergines, courgettes, poivrons, avec des pommes de terre, cuits au four, des petits légumes rôtis.
Tout est fait ici ?
Tout est fait ici, ouais.
Alors, la particularité, c'est que c'est une cantine bio. Ce qu'on mange ce midi, ça vient du coin ?
Ouais, alors le bœuf qu'on mange ce midi vient de Lanvalet, c'est à 50 km d'ici, sur la côte, là. Et puis, sinon, les légumes, en fait, ouais, c'est des légumes qui viennent de Vignoc. Donc Vignoc, c'est le bled qui est juste à côté. Mais en majorité, en fait, on essaye de s'approvisionner en fait, avec des produits locaux. Quoi. Après, on n'est pas 100% local, mais en fait, on essaye au maximum en fait, de travailler avec des gens du coin.
Voilà le feuilleton de la semaine prochaine. Sandy Dauphin, la terre au carré à Langouette, ce sera à partir de lundi. Dans un instant, une exposition sur les abeilles au Havre. Ce sera juste après Bagarre et Kabylifornie.
Je me présente, je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça mais je viens de Kabylifornie. Oui mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, carte à me jeter, je monte sur ma porte pour ce qui était tout l'été. Quand ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac chérie car demain on part en oublié. Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air au futur au passé, à Paris, à Alger, à ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha c'est moi, alors qui fais-moi, alors qui fais-moi, 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 qui fais-moi.
kiffez-moi, kiffez-moi,
kiffez-moi.
Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, time for love. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, kiffez-moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, time for love. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, kiffez-moi.
Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. J'suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup, coum, coum, Kabylie parmi. C'était curial ou teasy, 300 au beurre ou chabi. Entre les deux, un holly, Paris, Alger, Tizi. C'était curial ou teasy, 300 au beurre ou chabi. Comme un pauvre, je vis ma vie, ta hell, Kabylie parmi.
Oui, je sais, un jour je serai comme toi. Je ferai partie de ta vie. Un jour je serai comme toi, je ferai partie de ta vie.
Inter, la Terre au carré.
Bonjour Éric Tourneret.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. On a un joli tapis d'abeilles pour vous accueillir cet après-midi parce que vous êtes photographe, spécialiste de ces insectes et commissaire d'une exposition Abeilles, une histoire naturelle qui est à voir justement en ce moment au Muséum d'histoire naturelle du Havre. C'est jusqu'au 5 janvier prochain. Vous êtes également l'auteur de deux beaux livres, Les routes du miel et le génie des abeilles aux éditions Ozonie. Et d'ailleurs, Camille, vous les aviez déjà,
le ces ouvrages. Le génie des abeilles, oui, voilà. Parce qu'à la maison, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup ça.
Voilà. Comment est-ce que vous avez imaginé cette exposition, Éric Tourneret, vous qui, justement, êtes constamment avec ces insectes, vous avez des ruches chez vous, vous aviez envie de raconter quoi au public?
Alors j'avais envie de raconter une histoire merveilleuse basée sur les dernières découvertes scientifiques sur les abeilles, mm-hmm. qui ont complètement transformé la connaissance que l'on avait de cet insecte. Et ça se transmet en images, bien sûr, en légendes, mais également en vidéo ou alors en projection sur les murs.
Parce que la vie des abeilles, c'est pas très réjouissant ce qu'on nous raconte pourtant ces derniers temps.
Oui, il y a bien sûr les pesticides, mais en même temps, les connaissances, les nouvelles découvertes sont extraordinaires. Maintenant, on sait exactement comment se passe l'essaimage, qui est le moment où justement la colonie se divise pour aller créer un nouveau nid. On a des détails qui sont succulents, assez extraordinaires, ça devient poétique.
Et justement, ce qui arrive aux abeilles, la disparition des abeilles, vous avez parlé de merveille, en plus ça rime, c'est en train de rendre cet insecte presque attendrissant pour l'être humain. C'était pas toujours le cas.
Les abeilles avaient un capital sympathie parce que tout simplement, autrefois, pratiquement toutes les familles avaient des ruches. Mmh. Autrement, les scientifiques, par rapport à la disparition des abeilles, déclarent que l'abeille est vraiment un insecte sentinelle. C'est une sentinelle qui nous alerte sur l'état de la biodiversité de nos campagnes. Et en soi, si il y a des mortalités d'abeilles au niveau de pesticides, indirectement, l'être humain va être touché.
Donc vous, volontairement, vous avez eu envie de raconter finalement une autre histoire, avec vraiment la focalisation sur la science aujourd'hui de ces animaux, parce qu'on sait beaucoup de choses de leur intelligence, de leur mémoire, de leur capacité aussi à se repérer dans l'espace, il y a la danse des abeilles, ça vous l'avez observé, vous tout à fait régulièrement, j'imagine.
Tout à fait régulièrement, non. C'est quand même des moments assez exceptionnels, assez particuliers, parce qu'il faut les conditions pour vraiment bien les observer. Mmh. Mais autrement, dans cette exposition, on parle également de la disparition des abeilles, du problème des pesticides, de leur utilisation massive et préventive. C'est assez extraordinaire. On arrive à mettre dans des champs des milliers de tonnes de pesticides qui sont des néonicotinoïdes, qui sont neurotoxiques, en prévention. En prévention de quoi? Certains des scientifiques, justement, dénoncent cela en disant qu'un autre modèle est peut-être possible.
Qu'est-ce qui vous fascine, vous, Éric Tourneret, dans les abeilles?
J'ai toujours quelque chose à apprendre. C'est ça qui est extraordinaire. Les limites, c'est les limites de mon observation, c'est les limites de mon entendement et elles me surprennent toujours.
Ça doit être dur à prendre en photo. Comment on fait pour avoir des photos qu'on voit dans le génie des abeilles aussi précises, par exemple, et aussi proches de leur habitat?
On réfléchit, on essaye de comprendre un peu mieux les abeilles. On va mettre les abeilles en situation, on va travailler avec la lumière. Je travaille avec la lumière, je vais essayer de trouver le moment parfait en créant des décors ou en me déplaçant pour trouver le bon décor.
Oui, parce que vous avez voyagé énormément. C'est ça aussi l'intérêt de votre travail, c'est que vous êtes rendu dans de très très nombreux pays pour aussi étudier le lien entre ces insectes et les hommes, parce que de tout temps, effectivement, il y a une relation très proche, hein.
Oui, l'idée c'était d'élargir au niveau de l'international. C'est une histoire magnifique, l'homme et l'abeille. C'est vrai que l'homme a toujours récolté le miel au départ pour tout simplement le transformer en hydromel. Donc c'est vrai que l'on retrouve le miel un peu partout sur Terre, aussi bien en Amérique du Sud, en Russie, et l'hydromel était vraiment une part importante de la culture humaine.
Vous disiez tout à l'heure, tout le monde avait une ruche quasiment dans l'ancien temps, mais c'était aussi une façon d'avoir une substance aussi pour vivre. Et pour se nourrir?
Instinctivement, les gens qui avaient des jardins avaient des ruches. C'était bon pour la pollinisation de leur jardin. Et souvent, c'était organisé. Il y avait une personne qui connaissait un peu mieux dans le village les abeilles, qui était un apiculteur, et qui allait récolter en soi toutes les ruches du village, de tous les paysans, de toutes les personnes qui avaient des ruches.
Vous en avez, vous, des ruches?
Oui, j'ai une vingtaine de ruches. Dans ma montagne d'Ardèche.
Ouais. Et comment vont les récoltes alors? Parce qu'on parle vraiment à l'échelle nationale en France de certaines régions vraiment qui souffrent énormément, et les apiculteurs évidemment les premiers, avec des récoltes de miel de plus en plus mauvaises. Est-ce que vous l'observez, vous, à votre échelle?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, cette saison, la dernière saison, avec ce chaos climatique, cette sécheresse qui perdure, c'est vrai que dans tout le sud-ouest de la France et le sud-est, les récoltes ont été divisées par deux ou même plus. Personnellement, j'ai pas récolté de miel cette année. Les conditions sont assez difficiles. Donc il y a un appauvrissement avec la monoculture qui fait qu'il y a beaucoup moins de plantes et des floraisons qui sont concentrées sur un mois, sur la monoculture, des semences qui sont sélectionnées qui vont pas produire ni nectar ni miel, comme sur le tournesol. Ouais. Et c'est vraiment préoccupant.
Mais qu'est-ce qu'on se dit, finalement, au-delà d'être préoccupé, il y a quelque chose qui est tout à fait saisissant d'observer ça sous ses yeux.
On observe l'adaptation de la nature à ce réchauffement climatique, cette difficulté que vont avoir les plantes. Le problème, c'est que les plantes vont mettre un certain temps à s'adapter, à changer, tout simplement, à coloniser de nouveaux espaces qui seront libérés. Donc oui, c'est préoccupant. Les abeilles risquent d'être complètement touchées par ce réchauffement climatique et l'apiculture sûrement.
Est-ce qu'il y a des territoires dans le monde où ça va bien?
Oh oui, 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 tout à fait.
Alors dites-le nous, on a envie de savoir.
Lesquels?
Dans des endroits encore préservés et des pays qui ne sont pas développés. C'est vrai que j'ai voyagé aussi au Congo-Brazzaville, chez les Pygmées. Là, vous avez, c'est le paradis des abeilles, ou au Cameroun et également, ou en Éthiopie. Il y a des endroits encore qui ne sont pas touchés. Et vous retrouvez le dynamisme de cette espèce, le dynamisme naturel qui est présent. Et ça donne de l'espoir, parce que en soi, si on arrête d'impacter directement la nature, elle a une force de régénération extraordinaire. Et le problème de ces pesticides ou herbicides, c'est qu'on impacte directement le pouvoir de régénération de la nature. Et c'est très très dangereux, parce que on va à l'encontre de toutes les lois naturelles.
Éric Tourneret, est-ce qu'il y a un savoir-faire, j'allais dire quasiment universel, entre un pygmée d'Afrique par exemple, et puis un apiculteur de l'Ariège, sur la façon dont on s'occupe d'une ruche, ou qu'on récolte le miel, ou de récolter le miel?
Alors, pas vraiment, parce qu'il va y avoir de la chasse au miel ou de la cueillette, et après il y a vraiment de l'apiculture, donc dans nos ruches carrées. Et là, c'est tout un art de produire du miel. C'est vraiment un moment très particulier dans la nature. Il faut la bonne hydrométrie, assez d'eau, il faut la bonne température. Par exemple, cette année, j'ai pas eu de récolte sur le châtaignier, parce que tout simplement la canicule est arrivée. La fleur de châtaignier, à partir de 32 degrés, est stressée, elle ne va plus produire de nectar. Donc c'est vraiment un moment magique, même dans la nature. Faut se dire que c'est un acte d'amour, c'est la reproduction des fleurs. Donc cet acte d'amour est fragile.
Est-ce que aujourd'hui on parle des ruches connectées? Est-ce que ça peut être vraiment très intéressant? Est-ce qu'on s'en sert justement pour faire de la science aussi beaucoup et en apprendre plus sur ne serait-ce que la vie à l'intérieur d'une ruche?
Ah oui, le numérique a permis beaucoup beaucoup de recherches, a permis de mettre par exemple des thermomètres à l'intérieur de ruches et de pouvoir les suivre tout au long de l'année avec des caméras aussi, des abeilles marquées ou alors des petites puces RFID qui ont permis de suivre les abeilles et même de les suivre sur les fleurs ou de démontrer qu'elles étaient impactées par les néonicotinoïdes, elles perdaient leur chemin et elles n'arrivaient pas à revenir à leur ruche.
Il paraît que les abeilles sont intelligentes et savent même compter jusqu'à 5, vous confirmez ?
Oui, tout à fait.
Et comment on le sait?
Tout simplement en testant. Avec une récompense sucrée, justement, les scientifiques adorent
donner
faire
du
des
miel aux abeilles
en faisant une récompense sucrée. Et on a remarqué que elles arrivaient à identifier et à lier un nombre avec une récompense sucrée jusqu'à 5. Donc elles arrivaient à percevoir le 5 immédiatement en arrivant en vol.
Merci en tout cas Eric Tourneret. Donc on signale cette exposition pour tous les habitants du Havre et de la région. Abeilles, une histoire naturelle au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis vos ouvrages parus aux éditions Ozonie, Les Routes du Miel entre autres.
Et le génie des abeilles.
Merci beaucoup Eric Tourneret d'être venu dans la Terre au Carré.
Merci
à bientôt,
Mathieu.
Au revoir.